tant qu'il y aura des femmes. Avec Lydia Ketty. Votre rendez-vous du jeudi sur Aligre FM 93.1. Bonsoir, bienvenue à l'émission Tant qu'il y aura des femmes sur Aligre FM 93.1. Je vous retrouve chaque premier et troisième jeudi du mois. Ce soir, nous recevons mademoiselle Diane Martin.
Bonjour.
Bonsoir. Et monsieur Élie Pivard pour leur court-métrage Chimère.
Chimère, oui.
Ouh là là, c'est tout un titre, ça. Vous êtes en compétition au Nikon Festival, Film Festival, avec ce court-métrage?
Tout à
oui,
fait, oui.
Depuis
qui a ouvert en janvier dernier, au final.
Aujourd'hui, c'est d'ailleurs le dernier jour des votes.
Aujourd'hui, oui.
Pour soutenir, pour le vote du public, voilà. Parce que le public a un vote, il y a le jury qui vote pour certains films, avec certains critères. Et puis il y a le public aussi qui vote son film préféré.
Donc ce qu'on peut dire à l'instant, c'est que le public peut encore voter ce soir s'ils vont sur le site.
Bah, normalement, c'est la fin ce soir, effectivement.
Oui, on ne sait pas à quelle heure, mais peut-être vers 20h, 21h. Mais
on ne sait pas.
Se précipiter déjà pour aller
tout
voter.
Tout à fait.
Ça fait déjà 3 ans que le Nikon Film Festival appelle à la création de vidéos et favorise en fait l'émergence de nouveaux talents. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y avait 1300 films, courts-métrages, cette année. Tout pays confondu.
Oui, c'est ça. Bah, alors, principalement en France, mais il y a aussi des films internationaux. D'ailleurs, il y a une catégorie films internationaux qui peut gagner un prix.
Voilà, tout à fait. Il y a aussi, il me semble, des films des écoles. Et différents, je sais plus trop. Et depuis cette année, il y a des séries également.
Ah oui, aussi.
Ouais, des mini-séries de 6 épisodes.
Alors, voyons à qui nous avons affaire. Diane Martin, vous êtes scénariste, réalisatrice et actrice. Vous avez commencé à travailler dans le cinéma en jouant dans des fictions et au théâtre. Je me trompe pas.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Et vous avez écrit votre premier scénario en 2018.
Adopteunesoeur.com. Oui, exactement.
C'est ça, vous avez commencé tôt déjà à faire des scénarios.
J'ai commencé à écrire avant de réaliser, oui. J'ai fait plutôt dans cet ordre-là, ouais.
Dans vos projets cinématographiques, vous présentez des sujets sociaux comme la place de la femme dans la société. Ça fait partie de vos sujets.
Oui, voilà, j'ai un peu des sujets phares qui reviennent. L'acceptation de soi, l'agisme et la place de la femme globalement, qui en fait se relie avec tous mes sujets. Hein. Si je regarde, c'est toujours relié. Hein.
Bien sûr. Donc on peut dire que vous êtes une féministe engagée.
On peut le dire, dans le
allez,
sens
le
du
dit.
Terme.
On le dit. Élie Pivard, vous avez un bac littéraire.
Tout à fait.
Option cinéma audiovisuel.
Tout à fait.
Et une licence à l'école de supérieure de réalisation audiovisuelle de Bretagne.
Tout à fait.
Et vous êtes producteur, scénariste et réalisateur.
Tout à fait.
En 2022, vous avez produit et réalisé un projet qui s'appelle Contrebasse.
Tout à fait.
Et c'était quoi, Contrebasse?
Alors Contrebasse, c'était mon premier projet, on va dire, j'ai envie de dire semi-professionnel, au sens que c'était après l'école, sauf que je venais de sortir du coup de mes études, je connaissais personne à Paris, et du coup j'ai tenté de lancer ce film. Donc on a pu être soutenu par effectivement une cagnotte, ce qui nous a ramené un peu de sous, également la bourse d'initiative de Normandie, et donc on a pu atteindre à peu près les 20 000 euros. Et
ouais,
c'est un
bien.
Peu au travers de cette aventure que j'ai décidé ensuite de lancer ma propre société de production avec notamment les personnes qui ont été affiliées au projet.
Ouais, très bien. Voilà. Et vous avez fondé une société de production qui s'appelle Nikon.
Tout à fait.
Et la ligne éditoriale de vos productions est sur le monstre sous toutes ses formes.
Exactement.
Et encore la place de l'homme confrontée à des forces qui le dépassent.
C'est... Plus ou moins.
Alors le monstre sur toutes ses formes, donnez-moi un exemple par exemple.
Bah, le monstre, c'est avant tout celui qu'on monte du doigt, donc ça peut être un peu tout. C'est-à-dire
oui.
que c'est l'autre avant tout.
C'est l'autre.
Celui qu'on va regarder, celui qu'on va observer et qui peut paraître parfois
monstrueux.
Différent.
Oui.
Surtout, j'ai envie de dire différent plus que monstrueux.
Alors, en général, les monstres font peur. Hein. En général, on a peur du monstre.
Oui, mais on dit aussi quelqu'un qui a un talent monstre.
Oui, c'est vrai. Chaque année, le Nikon Film Festival propose un thème différent. Quel était le thème cette année?
C'était le super pouvoir.
Mmh. Ah, c'était le super pouvoir. Donc, quel sujet avez-vous décidé, Diane, de mettre en avant dans ce festival?
Bah donc, du coup, avec Élie, on a décidé de partir sur le pouvoir de l'imaginaire. Voilà, au travers des yeux d'un enfant qui va vouloir sauver sa mère de violence.
Donc, c'est le choix de violence conjugale, c'est ça?
Tout à fait.
Et vous, en fait, Ellie, je veux dire Ellie. Mm-hmm. Le choix des violences conjugales, ça vous a paru évident également. Pour vous, c'était un sujet nécessaire.
Bah oui, parce que c'était un thème que j'ai plus ou moins déjà abordé dans Contrebasse. Ouais. Et qui, du coup, est revenu forcément avec Diane, parce que on s'est vite retrouvés sur le sujet, quoi.
Ouais, sur le sujet. Et d'ailleurs, vous avez co-écrit le script en collaboration, tous les deux.
Tout à fait.
Et comment vous avez écrit ? C'est-à-dire, vous avez écrit chacun une partie ? Vous avez travaillé ensemble ? Comment ça s'est passé ?
Bon, on a commencé par se pitcher des idées et des concepts. C'est-à-dire qu'en 2020, l'intérêt, mon sens, d'une production, c'est d'être la plus marquante possible avec une forme la plus aboutie. Donc on a échangé plusieurs concepts avec surtout des fins à chute, de façon à pouvoir marquer, avoir un projet qui marque surtout. Et c'est celui-là sur lequel on est tombé d'accord.
Et vous avez réalisé évidemment ensemble le court-métrage Chimère et dirigé les acteurs.
Tout à fait.
Comment on traite un sujet, Diane, sur la violence conjugale ? Comment on arrive en très peu de temps, parce que ce sont des courts-métrages, à expliquer ce que c'est que la violence conjugale ?
Bon, il y a plein de façons, il y a plein de formes différentes.
Mais là, vous avez fait ça à travers le regard d'un petit garçon, en fait, Hugo.
Oui, voilà, donc en essayant un peu de se placer à sa place, qu'est-ce qu'il pourrait s'imaginer, justement ? Qu'est-ce qui pourrait l'aider à surpasser sa peur ? Puisqu'en fait, il en vient à menacer son père avec une épée. Mmh. Et alors qu'on sait très bien que voilà, il n'a pas la force nécessaire pour
bien
ça.
Sûr,
voilà,
sûr.
Donc en fait, on essaie toujours de se placer à la place de ce héros qui est ce petit enfant.
Oui, bien sûr. Quelles sont les difficultés, les avantages de création d'un court métrage ? Peut-être Elie peut nous dire ça. Quels sont ? Parce que ça paraît incroyable. En général, un film c'est 1h30, donc pour expliquer longuement.
Bah, alors sur le plan en termes forcément financiers et de temps de développement, c'est sur beaucoup moins plus court qu'un long métrage, au sens que c'est beaucoup moins de temps de tournage, ça demande souvent moins de mobilisation que les équipes complètes de long métrage, mais c'est pas forcément plus simple à raconter. Mmh. C'est-à-dire que il faut tout de suite, surtout dans un format aussi restreint que 2 minutes 20, il faut savoir faire en sorte que l'histoire rentre dans 2 minutes 20 et qu'elle puisse être racontée de cette façon-là.
Qu'elle soit explicite, en fait.
C'est ça. Mmh. Et c'est loin d'être facile, je pense.
Oui, mais ça donne un effet incroyable, de toute façon. C'est concis, mais c'est vraiment... le message passe, quoi qu'il en soit.
C'est ça. Bah, ça fait un peu appel à des notions, j'ai presque envie de dire, de publicité dans les codes,
oui,
on va
exactement,
dire.
Donc, exactement. Le super pouvoir d'Hugo et son imagination, cette capacité à transfigurer la réalité pour lui donner un sens héroïque. C'est-à-dire, ce petit garçon tout devient un chevalier, quelque part, pour défendre sa mère.
C'est ça. Bah, on s'est tous projetés, je pense, en ayant des capacités... surhumaine pour protéger un proche. Enfin, ouais. Je pense que ça nous est tous arrivé au moins une fois, ça.
Et ce qui permet, je pense, à ce que sa mère, en fait, et Hugo, ils arrivent à survivre à une psychologie, à une situation insoutenable, parce qu'effectivement, un père qui bat devant son enfant sa femme, ce sont des situations qui sont insupportables pour la femme et pour l'enfant. Ça marque à vie, quelque part.
Oui, bah en fait, c'est pour ça qu'il se tourne vers l'imaginaire, parce que la réalité est trop difficile, quelque part, à supporter. Et donc, il a besoin de basculer vers ça pour continuer à vivre un peu normalement, quoi. Mais c'est pas possible, finalement, parce que de toute façon, ça va avoir un impact sur lui. Et c'est aussi pour ça que la fin du film est un peu ouverte, parce qu'on se demande, est-ce que vraiment il se transforme en chevalier, ou est-ce que c'est quoi son imaginaire ? Qu'est-ce qui se passe vraiment après ?
En fait, vous abordez de manière frontale la question des violences conjugales, qui est un fléau aujourd'hui mondial, on va dire. Mais je pense que la réaction du petit garçon, en fait, va créer un choc chez le père, qui va peut-être aussi se dire « qu'est-ce que je fais, quoi ? Pourquoi, qu'est-ce que je suis en train de faire à mon enfant et à ma femme ?» À travers ce récit, on voit aussi l'impact des victimes directes, mais également des enfants, parce que ça aussi, on ne parle pas assez. Quand on parle des femmes battues, on ne parle pas souvent des enfants battus, quelque part, même s'ils ne sont pas touchés. Et quelquefois, ils le sont. Quelquefois, le père tape aussi cet enfant. En fait, Hugo, j'ai vu dans le film, Hugo et sa mère se protègent mutuellement, Ellie.
Mmh, tout à fait. Bah, c'est sûr, je pense que c'est ce que raconte le regard final. C'est, à mon avis, c'est là où la question du film se pose. C'est « Et maintenant ?» Qu'est-ce qu'on va faire ensemble ? On a décidé d'intituler ce film « Chimère ». Et je pense que le réel, il est bien dans ce regard-là, pourtant. C'est-à-dire que l'imaginaire du petit garçon, c'est tout ce qui peut paraître de l'ordre du jeu, du faux, on va dire. Mais la vérité, c'est que eux s'aiment et je pense qu'ils pourront. Oui. Ils pourront peut-être s'en sortir, on l'espère pour eux.
J'espère, en tout cas, eux souffrent. Bon, justement, Hugo a une épée en bois, donc ça veut dire aussi que quelque part, il n'est pas dans la violence, lui. Il est juste en train d'essayer de réagir pour que son père réagisse à son tour. D'ailleurs, vous avez filmé ça de telle manière à ce qu'on passe d'un moment de réalité à un moment imaginaire, presque chevaleresque, on dirait.
On a essayé de mettre des transitions au moment qui nous semblait les plus opportuns. En tout cas, de passer de l'un à l'autre avec du sens. Il y a toujours, on a essayé toujours de mettre du sens dans les transitions, même quand ce n'est pas à l'image. C'est que derrière, dans le fond, ça raconte quelque chose pour nous de passer de l'un à l'autre. Et c'était important pour nous de relier le plus possible les deux mondes.
Mais les sentiments ne sont pas les mêmes, en fait. Dans ces deux mondes-là, il y a un monde de violence et un monde d'imaginaire. Donc c'est vrai que ça explique bien aussi ce que vous voulez nous expliquer. La musique accompagne les deux situations opposées, et les chimères de l'enfant et la violence subie par la mère. Cette musique aussi est présente aussi. Et je crois que, je ne sais pas qui a créé cette musique, c'est un garçon...
C'est Antoine Folea qui a créé la musique du film. Il avait très envie de travailler plus dans la fiction, parce qu'il fait plutôt plus univers clip, commercial, etc. Et donc il avait très envie de se tourner vers la fiction. Et donc on a eu la chance d'avoir une musique originale pour le film en fonction des envies qu'on avait. On lui a un peu demandé ce qu'on voulait concrètement, et avec son imaginaire justement et sa propre créativité, il nous a proposé des choses et voilà, on a avancé pas à pas et il a fait un super boulot quoi.
Mais vous êtes très nombreux, parce que quand on voit le générique, enfin vous êtes quand même, je sais pas combien vous êtes dans ce film.
On était 30 environ.
Oui, vous êtes... Voilà,
dans l'équipe, pour le coup.
Oui, c'est assez important quand même pour un court-métrage. Ouais. Pour des gens qui ont du talent, mais il faut aussi tenir une équipe comme ça quand on est, parce que je vous l'avoue, mais c'est vrai que j'ai devant moi deux jeunes personnes. la violence conjugale a plusieurs types. C'est un fléau social, mais il y a plusieurs types de violence. Il y a la violence sexuelle, la violence physique, et il y a aussi une violence psychologique, c'est-à-dire une violence de comportement, c'est-à-dire que la personne reste enfermée dans un rapport avec son mari ou son concubin, rapport de violence tous les jours, constamment. Donc ça aussi, ce sont des moments difficiles. Et vous, ça vous parle, Elie, ce genre de situation, cette violence-là?
On ne peut que être en empathie avec les gens qui la vivent. C'est-à-dire que pas directement nous, mais forcément, on a tous quelqu'un, à mon avis, dans nos proches... qui est proche de subir ça au quotidien, et en fait plus qu'on ne le croit, je pense.
Oui, et puis souvent ça commence peut-être par un mot, par une vexation, par une, je sais pas, Diane, comment vous voyez ça? Est-ce que c'est pas toujours évident? Et puis les femmes qui vivent ça n'osent pas tellement en parler aussi.
Oui, et puis c'est aussi ce qui fait qu'elles restent, c'est qu'elles sont un peu enfermées elles-mêmes moralement au-delà du physique. Elles peuvent plus partir parce qu'en fait la relation est tellement toxique qu'elles pensent qu'elles doivent rester d'une façon ou d'une autre, et ça les empêche d'avancer concrètement.
Oui, bien sûr.
Donc la violence morale s'exprime aussi comme ça, par ce côté tu vas pas bouger d'ici quoi.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la femme est complètement enfermée et soumise. On va écouter un peu de musique, parce que la programmation musicale est de votre choix. Clara Luciani qui nous parle du cœur. Donc on va écouter le cœur. Battre.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
T'es comme un voile qui s'accroche à tous les clous. Tu t'effiloches, tu t'abîmes à tous les coups.
c'était Clara Luciani qui nous a parlé de son cœur. Vous êtes toujours sur Aligre FM, tant qu'il y aura des femmes, toujours. 93.1, c'est la fréquence. Et nous recevons Diane Martin et Lily Pivard pour leur court-métrage Chimère, qui est un magnifique film. Et vous avez encore le temps, là, vite, dépêchez-vous d'aller sur le site pour voter, pour qu'ils puissent avancer et gagner. Ils sont pas loin, mais on a besoin de quelques votes encore. Diane Martin, le temps, de tout temps, les violences ont existé au sein du couple. On va faire un peu d'histoire, vraiment. En l'an 343 avant Jésus-Christ, on se demandait si la femme avait une âme. Pour Aristote, le fœtus masculin se dotait d'une âme au bout de 40 jours, alors que pour nous, les femmes, c'est au bout de 90 jours. Donc on était déjà au départ en retard. Dans la religion judéo-chrétienne, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il n'y a pas de trace de femme. La femme est écartée de la divinité, elle est déjà violentée et opprimée du fait de son genre. Si on parlait un petit peu des femmes, il y a eu une époque où il y a eu la chasse aux sorcières. Les historiens évaluent à peu près l'exécution entre 50 000 et 250 000 femmes en Europe qui ont été tuées. D'ailleurs, vous avez fait avec Lucie Larnaud et Edith Pavard, vous avez fait un film, on va quand même en parler parce que c'était un super projet aussi, ça s'appelle Les Sorcières. Parlez-nous un petit peu de ce document. Qu'il est devenu, parce qu'il a fait effectivement le festival aussi.
Oui, l'année dernière. Alors effectivement, voilà. Il a participé au Nicole l'année dernière. Et puis on a sorti une version un tout petit peu plus longue, hein, de 6 minutes et quelques, pour continuer sur d'autres festivals par la suite. C'est le but. Donc oui, alors c'est marrant, parce qu'effectivement, Ellie était en production exécutive, et en composition et en assistant réel sur le film. Donc beaucoup de casquettes, n'est-ce pas? Et maintenant, le film a eu quelques sélections au festival, quelques mentions honorables aussi. D'ailleurs, bah, récemment, on a reçu une mention honorable pour Ellie pour sa composition musicale.
Vous avez reçu des prix, oui, pour ce film, pour Sorcière.
Bah, du coup, on espère que, oui, il y en ait d'autres, hein, maintenant.
Oui, voilà. Oui, bien sûr. C'est bien tout à fait le but, mais c'est sûr que vous allez passer le cap. On parle aussi, une chose qui m'a aussi interpellée, c'est Freud qui, au début du 20e siècle, a infériorisé sexuellement l'originelle de l'organe des femmes, en disant que c'est normal qu'elles soient inférieures du fait de leur sexe. Merci, monsieur Freud. Il y a aussi une histoire que j'ai lue, je vous avoue, quand j'étais jeune, mais alors j'ai absolument rien compris à ce livre. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ce livre. Ça s'appelle l'histoire d'eau. Est-ce que, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle O et qui est une esclave sexuelle et qui considère que l'amour rime avec la soumission. C'est un livre qui a été très connu, on en a beaucoup parlé et ça a marqué, je pense, beaucoup de générations parce que c'était assez étonnant, cette femme. C'est un peu comme ce film qui est sorti sur 50 minutes sur les femmes, vous savez, ce
50
film.
50 degrés.
Merci. Ouais. Voilà, c'est ce que je cherchais. Donc c'est pareil, il y a une forme de soumission de la femme un petit peu dans l'art et dans les bouquins. J'ai envie de vous poser une question, Elie Piva. Pensez-vous que fondamentalement, pour le besoin de procréation d'un homme et d'une femme, c'est ce qui les amène à former un couple? Est-ce que s'il faut. On forme un couple pour procréer?
Je pense qu'il y a beaucoup d'éducation qui rentre en jeu. C'est-à-dire que des enfants, on va leur apprendre toute leur vie que pas de sexe avant le mariage, le but c'est de faire des enfants, tout ça. Je pense que oui, ils vont commencer à penser ça et se formater là-dedans. Si derrière, on leur apporte une éducation peut-être plus ouverte, je pense qu'ils arrivent à trouver autre chose dans la relation, le couple et l'amour peut-être.
Bien sûr, sachant qu'en fait, les petites filles, dès leur tendre vie, lisent des contes de fées où c'est le prince qui vient les sauver. Donc déjà, le couple est idéalisé quelque part.
Oui,
vous avez lu ce genre de livre.
Il y a déjà un problème de placement dès le début, quoi.
C'est clair, parce que bon, le prince, évidemment, souvent il est là, et souvent il n'est pas prince, et puis souvent il n'est pas charmant non plus. Donc là, ça veut dire qu'on se retrouve en face d'un monstre, dans tous ses états. Il faut savoir qu'un couple est une entité construite conjointement, où doivent figurer les intérêts individuels et les intérêts du couple. C'est un peu ça le problème, c'est comment dans un couple on arrive effectivement à mettre en avant ses désirs et les désirs de l'autre et le désir du couple qui est aussi une entité. Qu'est-ce que vous en pensez?
Après c'est une balance, hein. Il y a des couples qui fonctionnent heureusement.
Est-ce que vous êtes en couple tous les deux?
Moi oui.
Toi oui.
Vous, moi
oui.
Non.
Vous non.
C'est bien comme ça on a les deux ce soir.
Mais parlez-moi un petit peu de Chimère. Comment Comment vous avez eu envie de faire ce court-métrage et qu'est-ce que ça vous a apporté et qu'est-ce que ça vous a posé comme question en fait de faire ce court-métrage?
Alors je pense qu'au départ il y avait surtout l'envie de faire un film avec Diane depuis Sorcière. Ensuite forcément on a essayé de mélanger nos thématiques qui nous tiennent à cœur et on a abouti effectivement à cette idée-là qui c'est plus en fait une envie de travailler avec Diane plus qu'une envie de sujet particulier précisément sur ce film. C'est-à-dire que le processus créatif n'a pas été le même que quand on est seul devant une feuille de papier. Que là, c'était avant tout de travailler avec Diane qui nous a fait aboutir au sujet, forcément.
Oui, parce que c'est quand même, entre Sorcière et ça, c'est quand même, la femme était quand même au centre de l'histoire à chaque fois.
Tout à fait.
Donc c'est quand même intéressant.
Parce qu'on a quand même des thématiques tous les deux qui aussi, abordent tout, enfin à chaque fois qui abordent quand même un sujet social différent.
Ouais.
On a des sujets différents selon nos films, mais effectivement, c'est des sujets qui nous intéressent tous les deux.
Ouais, c'est
et
ça.
Souvent quand même avec une forme de noirceur, en tout cas quelque chose d'un peu dramatique.
Bon, on parlera après de l'avenir, mais je suppose que les projets qui vont venir ça aussi ce sont ce type de thématiques.
Oh bah, il y a...
Bon, pour moi, oui, en tout cas.
je n'ai pas beaucoup de comédie en stock, c'est vrai.
Alors, on va parler toujours du couple. Aujourd'hui, les célibataires se rencontrent sur les réseaux sociaux et rendez-vous organisés comme des castings. Est-ce que c'est à cause du fait de l'allongement des études et de la carrière féminine professionnelle des femmes qu'il y a plus de célibataires? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a beaucoup de célibataires, hein. Il y en a 8 millions en France. 37% de femmes et 43% d'hommes.
Oui, mais alors il paraît qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont célibataires et qui aiment être célibataires, qui n'ont pas du tout envie de ne plus être célibataires. Et je pense qu'avant, il y avait vraiment l'obligation d'être en couple. Et qu'il y a des gens, plein de gens qui se sentent beaucoup plus libres maintenant. Et en fait, c'est un choix. C'est pas forcément que négatif.
Complètement. Mais je pense aussi que c'est aussi le positionnement de la... C'est la femme qui a changé. C'est-à-dire qu'à un moment, elle quittait les parents et l'autorité des parents pour rentrer sous l'autorité du mari. Je pense aussi que la contraception nous a aidés à faire des choix. C'est-à-dire qu'on peut aussi décider à quel moment on veut avoir un enfant. Plus aussi... le côté professionnel, c'est-à-dire qu'il y a plus et plus de femmes qui travaillent, qui ont des carrières professionnelles, donc ça aussi, ça change le moment où on se met en couple, quelque
part. Oui, c'est ça, parce qu'il faut arriver à jongler avec tout, finalement. Tout à fait.
Pour vous, Lépina, quel est le... Est-ce que le web, pour vous, est le meilleur moyen de trouver chaussures à son pied?
Oula. Je sais.
C'est un moyen. En fait... Est-ce que c'est le meilleur? C'est peut-être pas le meilleur.
Ça dépend quel site.
Ça dépend quelles chaussures aussi.
C'est ça. Ça dépend quelles chaussures. Non, bah, je pense que de toute façon, ceux qui se servent du web comme un outil sont ceux qui s'en servent le mieux. Ceux qui vont y créer tout un univers et peut-être presque une obsession ou un déni, c'est toujours le même problème. Je pense que le virtuel est bien quand on le maîtrise. Qu'on sait s'en servir à bon escient. Mais il ne faut pas, à mon avis, quitter le réel, je pense. Bah, totalement.
J'ai l'impression que, les hommes et les femmes passent un temps fou à s'écrire, à échanger en écriture.
À se tourner autour aussi.
C'est ça. Mmh. Et ils pensent qu'ils ont compris l'individu qu'ils ont en face d'eux. Parce que c'est vrai que c'est virtuel, en fait, quelque part. Mais est-ce que ça va contribuer à une plus longue longévité des couples? C'est ça que je demande.
Bah, ça a l'air parfois compliqué. Je connais les deux, en fait. Je connais vraiment des couples qui ont très, très bien fonctionné comme ça et qui sont toujours ensemble. Et d'autres où, justement, dès qu'ils se sont rencontrés, ils se sont rendus compte très vite que c'était pas possible. Quoi.
C'est pas possible. Alors, c'est vrai qu'on est obligé de parler dans un couple de ses besoins, de ses désirs et de ses préoccupations. Là, justement, on va selon l'INSEE, il y a 247 000 mariages en France en 2024. Il y a eu tous les gens sont mariés. Comme le mariage reste quand même un moment où les hommes et les femmes aiment se marier. Et dit, vous allez vous marier un jour?
Oh, je ne sais pas, sans doute, peut-être. Après, pour le coup, je citais mes parents qui, eux, se sont mariés, ils s'aiment profondément encore aujourd'hui, mais se sont avant tout mariés par facilité économique que ça produit.
Oui, ça
je pense qu'il y a beaucoup de ça.
On peut vivre ensemble et sans se marier et être
on
heureux.
Peut tout fait. À fait. Le mariage n'est absolument pas une condition du bonheur.
Il y a quand même une différence de relation entre... Mais il y a les mariages, il y a le Pax et il y a aussi le concubinage. Donc on n'est pas dans les mêmes droits et devoirs selon la vie. Environ 46% des mariages se terminent par un divorce. Donc c'est vrai que Le concubinage, par exemple, on a absolument aucun droit. Enfin, on n'a pas d'avantage non plus. Mais le mariage, effectivement, protège un peu la femme, hein, en cas de séparation, en cas de divorce, etc. Mm-hmm. etc. Parlons un petit peu de Chimère. Racontez-moi Chimère. Dites-moi quelque chose sur Chimère. Allez, Edith. Quels sont vos espoirs pour quels sont vos espoirs pour ce documentaire?
Écoutez, nous forcément, c'est de faire vivre
pour le futur, je parle.
Pour le futur, bien ouais. sûr. Pour c'est de faire vivre le film forcément le plus possible, qu'il aille le plus loin possible, qu'on puisse rencontrer le maximum de monde possible, en espérant toucher le maximum de monde également. On a eu notamment régulièrement des gens qui nous ont dit que ça pourrait être présenté dans justement les plannings familiaux ou ce genre de trucs.
Ah ouais.
Et c'est vrai que si le film peut contribuer à ça, pourquoi pas, on verra.
Et comme ça, quelles sont les démarches de jeunes gens comme vous pour justement faire connaître leur film? Parce que bon, il y a les festivals, parce que vous me disiez tout à l'heure, Diane, oui. que vous avez d'autres festivals qui vous ont fait des propositions. Mais comment fait-on? Est-ce qu'on est tous les jours au téléphone, en train d'appeler des festivals? Est-ce qu'on appelle des gens? Est-ce qu'il y a des aides à la création qui vous sont proposées?
En fait, il y a des appels à projets pour les festivals à des dates bien précises. Il faut répondre dans le bon moment.
Le temps,
au bon moment, imparti, le temps ouais. imparti, exactement. Et après, eux, ils font un choix. Quel film ils gardent? Voilà, c'est une sélection. Et puis après, on peut aussi l'envoyer à des projections, à différents événements de projection qui existent sur des thématiques précises. Mais tout ça, c'est beaucoup sur Internet, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup d'Internet pour tout ce qui est film. Mais après, le but, concrètement, c'est qu'une fois que le film il a une visibilité, ça permette aussi d'avoir plus de facilité à faire d'autres films, à débloquer Bien des sûr. Financements pour d'autres projets, soit courts, soit longs. Mais en tout cas, ça, c'est un peu une carte de visite, en oui. fait, quand on a un film qui a du succès. C'est une carte de visite pour la suite.
Bien sûr. Mm. Mais en fait, vous avez fait Les Sorcières, c'est bien, et vous avez donc des projets, tous les deux, pour d'autres... vous pouvez nous dire des choses sur ce que vous avez prévu dans quelques mois. Élie, il ne veut rien dire, lui.
Non, mais c'est pas ça.
Il veut garder le secret.
C'est encore trop tôt, surtout.
C'est quoi?
Vous m'inviterez l'année prochaine pour en parler.
Ouais. Mais non, mais moi, je veux savoir aujourd'hui.
Ah bah non.
Ça, l'année prochaine, je vous invite encore à nouveau.
Non,
est-ce
bah,
que vous avez envie de faire un long, par exemple? Est-ce que vous...
Oui, bien sûr. Mais pour l'instant, moi, je me focalise surtout sur le développement de ma société de production, du coup.
Oui.
Donc, pour l'instant, on est encore sur du court jusqu'à, à mon avis, cet été.
Ouais.
Au sens qu'on a plusieurs dossiers qui sont en cours de financement, dont un des miens.
Oui.
Et
c'est liquant, votre production,
c'est
votre,
ça. Tout à
votre
fait.
Société.
Tout à fait. Mais en tant qu'auteur, oui, bien entendu, c'est pas les idées qui manquent. Maintenant, c'est le temps de développement, c'est le temps de trouver les bonnes personnes autour de soi pour pouvoir mener le projet au bon moment. Et
Mais vous êtes acteur aussi en même
non.
temps? Pas du tout.
Pas du tout.
C'est Diane seulement qui est actrice.
C'est ça.
Donc c'est vrai que c'est un quand même un long travail à faire.
Ah bah je pense que oui, un projet bah là par exemple pour rien que pour Chimère, on a commencé à enfin je sais pas, on a commencé l'été dernier
ouais.
et on a tourné en décembre quoi.
Du coup. Ouais ouais, bah c'est du travail.
C'est quoi. Du temps
c'est
quel
du
que
temps,
soit c'est du temps de développement, de réflexion, forcément quel que soit le projet ça, c'est
Puis le cinéma c'est beaucoup d'attente de toute façon. Enfin c'est pareil,
c'est
quand on envoie un festival, il y a de l'attente, quand on demande un financement, il y a de
c'est
l'attente.
Ça.
En
oui,
fait,
parce qu'ils ne répondent pas tout de suite.
C'est que
voilà.
Je pense que c'est un métier où, quel que soit son poste, de toute façon, on ne dépend que du désir des autres, en fait. C'est... Oui. Après, je pense que dans
vous
plein de métiers...
Vous avez raison, c'est tout à fait ça, malheureusement. Ouais.
Mais dans plein de métiers, remarque.
Dans plein de métiers, oui. Même dans la vie, même.
C'est sûr. Ça.
Mais vous avez dit que vous étiez nombreux sur ce film-là, par exemple, sur Chimère. Comment, c'est peut-être indiscret, mais comment c'est du bénévolat, j'imagine. Tous ces gens sont les gens que vous arrivez à convaincre de vous aider à tourner ce film, c'est ça?
Bah, justement, en fait, il y a à peu près la moitié des techniciens qui faisaient partie déjà de Sorcières. Donc,
ouais.
En fait, c'est des gens avec qui on a créé une fidélité. Et puis, il y en a d'autres, une autre moitié, on va dire, qui faisait partie d'un autre projet où j'avais joué, qui s'appelait Agnès, qui était aussi au Nikon de l'année dernière. Et donc, du coup, le fait de regrouper tous ces gens-là, en fait, avec qui on a beaucoup aimé travailler, ça permet d'avoir une équipe qui n'est pas juste une équipe technique comme ça, mais
ouais.
vraiment des gens en qui on a confiance, avec qui on a envie de travailler, qu'on s'amuse bien avec aussi.
Bien
voilà,
sûr,
tout ça, quoi.
Bien sûr. Non, puis je pense que ça fait partie des métiers où on apprend au pied du mur, quoi. Donc ils apprennent leur métier aussi tous, en fait.
Oui, bah après, c'est quand même des personnes qui ont déjà un niveau professionnel, mais qui ont besoin voilà, aussi de continuer à faire des projets et eux-mêmes de se trouver une place encore plus importante dans le cinéma par la suite.
C'est que c'est avant tout aussi un métier de réseau. C'est-à-dire qu'on a beau avoir les compétences techniques ou compétences artistiques ou tout ça, c'est vrai que ce qui va beaucoup jouer, c'est les personnes qui nous appellent, on va dire, pour participer à tel projet, lancer quel projet, ou quand nous, on lance notre projet, savoir qui appeler. Donc c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de qu'est-ce qu'on espère du résultat des projets. Bah, c'est aussi de rencontrer du monde et pouvoir justement continuer à faire avec toujours plus de monde qu'on sait
bien sûr.
De réseaux qui s'étendent.
Et en général, quand il y a les résultats, la remise des prix, comme ça va être le cas pour Chimère, ça va se passer quand exactement? C'est au Rex, je crois.
Oui, alors il me semble que c'est dans un mois à peu près.
C'est le 20 avril, il me semble.
20 avril, bah, donc, du coup, ouais, c'est ça. Dans un mois, effectivement. Oui, c'est une grande soirée. Dans une très très grande salle où ils vont projeter en fait en direct les films qui ont été votés par le jury et par le public du coup.
Il y a un prix aussi qui est donné aux femmes, semble-t-il.
Oui aussi, il y a un prix Alice Guy effectivement, qui est donné chaque année, ouais, depuis quelques années.
Tout à fait.
Non mais c'est bien. Bon alors je vous conseille d'aller voir qui est Alice Guy. C'est
la première réalisatrice de l'histoire.
Voilà. Tout simplement.
Et si ce
n'est
une
française en plus.
C'est ça. Et c'est même pas juste la première réalisatrice. On pourrait dire que c'est le.
C'est là. Oui.
Voilà, c'est aussi le premier réalisateur, on pourrait dire.
Oui.
Bonsoir. Enfin.
Non. Non, réalisatrice.
Réalisatrice, mais ce que je veux dire par là, c'est que même des hommes avant elle n'avaient pas fait ce métier.
La première personne qui a réalisé.
Voilà, c'est ça. On va dire ça comme ça, c'est plus simple.
Et d'ailleurs, elle a fait un film qu'avec des Afro-descendants aux États-Unis. C'est incroyable, elle était complètement moderne. Et cette femme, effectivement, elle a fini sa vie en France, très âgée. Et on a fini. En fait, en fin de vie, elle a été récompensée pour tout le travail qu'elle a pu faire. On va écouter un peu Angèle.
Allons-y.
Qui va nous faire la tempête.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Elle ouvre les yeux, regarde à terre. Peureuse, elle regarde à terre. Elle lui promet que c'était la dernière. Et elle ramasse ses affaires. Pour une envie si humaine d'avoir voulu être libre. Et c'était pas la première. La première crise, si sur eux tu ne lèves jamais la main, tu seras un très bon père et meilleur sera demain. Et de mieux en mieux, évidemment que ce sera de mieux en mieux. Un jour ce sera joyeux, mais en attendant de subir le feu.
Le temps je demeure et les brise, espérant qu'il n'y aura pas de prochaine. C'est toujours ça d'espérer qu'on n'ait pas chanté de requiem.
Voilà, c'était Tant qu'il y aura des femmes toujours. Non, c'était Angèle, en fait, qui nous a fait une tempête. Vous êtes toujours sur Aligre FM, Tant qu'il y aura des femmes. Je suis Lydia Ketty. Tiens. Nous recevons Diane Martin et Elie Piva. Elie n'est pas très bavard, mais on essaye quand même de le faire parler. Et ils viennent pour, ils viennent pour leur film Chimère. Et ils sont en compétition dans un festival. Quel festival vous êtes en compétition?
Du Nikon Film Festival.
Très bien. Et donc, on peut encore voter ce soir, si je me souviens bien.
C'est ça. C'est le dernier jour, par contre.
C'est le dernier jour. Donc, il faut y aller, là.
Il faut y aller.
Il faut y aller. Et ensuite, il va y avoir évidemment une grande fête pour donner les prix, etc. Et vous allez vraiment être parmi les gagnants, quoi qu'il en soit.
On ne peut pas dire qu'on sera parmi les gagnants, non. Mais on peut dire qu'on a déjà gagné beaucoup.
Donc, c'est un documentaire. Documentaire, non. C'est fiction. Un court-métrage qui est sur la violence conjugale.
Exactement, la violence conjugale, ouais.
Donc, il faut quand même savoir certaines petites choses. Si on parle un petit peu du droit conjugal, il faut savoir que le mariage ne saurait justifier un consentement aux relations sexuelles futures. C'est-à-dire que c'est quand même important de considérer que c'est pas parce que vous êtes marié avec quelqu'un que vous avez quelqu'un que vous devez constamment... faire ce qu'on appelle le devoir conjugal. Alors j'ai une bonne nouvelle quand même, parce qu'il faut savoir quand même que la Convention européenne des droits de l'homme indique que le devoir conjugal est contraire à la liberté de disposer de son corps. Donc le devoir conjugal n'existe plus, c'est terminé. C'est pas une bonne nouvelle ça?
Ah bah si,
ah si ça va dans le bon sens.
Il était temps surtout.
Alors juste une petite question, c'est pas une petite question, une petite information. Si vous êtes victime de violence conjugale ou témoin de votre cas, il faut appeler le 3919. Et il y a même un email, ce que je ne savais pas, c'est victime@116006.fr. Comme ça, on peut toujours écrire si on peut pas aller voir la police. Et puis ici, il faut constater ses blessures. Donc il faut aller sur une unité médico-judiciaire pour cela. On a parlé de la musique tout à l'heure, mais je crois que vous faites de la musique aussi.
Tout à fait.
Alors dites-moi... dites-moi... Sur quoi vous avez fait de la musique? Sur Sorcière?
Alors j'ai fait effectivement la composition du dernier film de Diane, enfin l'avant-dernier film de Diane qui s'appelait Sorcière du coup. J'ai pu pratiquer en fait, depuis enfant en fait, j'ai pu faire un instrument de musique qui est tout simplement la contrebasse. Ouais. Et en fait ensuite je suis parti en classe d'écriture, justement plus pour me spécialiser vraiment dans la composition musicale. Jusqu'au troisième cycle de conservatoire, et ensuite j'ai préféré partir dans l'audiovisuel. Donc en fait, j'ai gardé cette culture-là et cette, on va dire, cette, cet apprentissage en fait, au profit des films que j'ai l'occasion de faire aujourd'hui. Quoi.
Mais ça veut dire aussi que vous êtes musicien, si je comprends
bien. Tout à fait.
Tout à fait. Donc vous êtes musicien, et vous jouez de la contrebasse, non?
Oui.
D'accord. Bon, déjà. Bon. Et d'autres instruments que la contrebasse?
Non, que la contrebasse. Pour le coup.
Et vous composez sur la contrebasse?
Non.
Vous composez comment alors?
Sur, en fait, on a la chance aujourd'hui d'avoir des outils informatiques qui nous aident beaucoup, comme notamment tout ce qui est de l'ordre des VST sur différents logiciels. Donc en l'occurrence, moi je suis sur Cubase, du coup, avec plein de logiciels qui simulent les instruments virtuels en fait.
C'est ça.
D'une plus ou moins, avec une précision plus ou moins réussie.
Donc vous avez quand même beaucoup de postes.
J'essaie de les limiter de plus en plus. C'est pour ça que tout à l'heure, la présentation producteur, réalisateur, scénariste me semblait tout à fait judicieuse.
Diane, vous me parlez d'aide à la création. Donc, est-ce que vous avez des projets dans l'avenir? Parce que vous avez des projets ensemble, mais est-ce que vous avez des projets de théâtre, par exemple? Parce que vous jouez au théâtre aussi.
Théâtre, film, oui. Après, c'est très variable. Hein.
Oui.
Mes projets, hier j'étais sur un commercial, mais j'ai aussi un court-métrage bientôt où je vais devoir faire une petite chorégraphie de combat. Enfin voilà, ça, c'est toujours un peu ponctuel parce qu'en ce moment je suis pas trop au théâtre, je suis quand même plus devant la caméra.
Devant la caméra.
Donc, du
ouais.
coup, c'est vraiment plus des missions ponctuelles ou assez courtes que ouais. vraiment du long terme, comme quand on est au théâtre où là ça va être des mois de répétition sur la même ouais. pièce et ensuite une tournée.
Mais vous
n'avez
pas envie de retrouver un peu les planches un peu pour...
Ça pourrait, mais pour l'instant j'ai pas vu quelque chose. Alors j'ai quand même des dates au musée Grévin, le musée Grévin, donc là ça vient de se terminer mes dates, mais je vais en refaire d'autres où c'est du spectacle immersif.
Oui.
Et où je joue effectivement des personnages, donc c'est une forme de théâtre qui est assez sympathique. Mais le théâtre, on va dire, un peu plus classique, pourquoi pas. Mais c'est vrai que je mets plus mon énergie, on va dire, dans la recherche de fiction.
Ouais.
Qui est ce que moi, personnellement, j'apprécie le plus aussi.
C'est-à-dire que là, le film, ça vous intéresse quand même plus que le théâtre en ce moment. C'est ça qui vous...
Oui, voilà, globalement, c'est ça.
Et vous allez refaire quelque chose avec Lucille un an ? Oui,
bah en fait, on est en train de développer la version longue de Sorcière.
Ah, ça y est, c'est prévu, ça ?
Voilà, bah, enfin, c'est prévu. Disons que pour l'instant, on est dans l'écriture et qu'on travaille un traitement, c'est-à-dire une version un peu réduite d'un scénario, mais qui explique globalement ce qui va se passer dans le scénario. Et ce n'est pas le court-métrage Sorcière tel qu'on a pu le voir, mais ça va être, on va dire, la même thématique, ouais. Le même sujet, le même propos.
Les sorcières, voilà. Qui... Mmh. Mais ce court-métrage, en fait, vous avez dit, il continue dans d'autres festivals, etc. Moi, j'ai adoré ce court-métrage. Et ce que j'ai adoré, je vous avoue, c'est quand à la fin, vous êtes dans la rue, et ce monsieur vous demande du feu, et avec votre briquet, vous allumez votre briquet, vous dites « j'ai pas de feu ». Et j'ai trouvé ça génial comme idée. Et c'était assez fort. Hein. C'est comme dans Chimère, il y a des moments très forts comme ça. Il y a des... Symboliquement, ça marque vraiment, je trouve.
Bah c'est une prise de pouvoir. Et c'est vrai que c'est un peu ce que fait aussi Hugo, le petit garçon dans Chimère. Le fait de brandir l'épée malgré la peur et malgré le fait qu'il soit tout petit
enfant,
par rapport
oui,
à son
enfant,
père. Voilà, c'est une prise de pouvoir. C'est-à-dire que le message, c'est un peu que finalement, le pouvoir, c'est pas... que véritablement dans la force, mais c'est aussi beaucoup mental. C'est ce qui rejoint les deux films, en fait.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Oui, et puis c'est dans la réaction aussi. Mm. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours victime. Si la victime réagit, c'est ça aussi. Tant qu'elle est soumise et qu'elle est victime, il ne se passe rien. Dans la mesure où elle réagit, c'est là où il se passe quelque chose. Et c'est là où, effectivement, le bourreau, entre guillemets, se trouve mal, quoi.
Oui, voilà, et c'est ce qui se passe aussi dans les violences conjugales. Dès que la femme se met à réagir, finalement, en général, elle s'en sort. Bon, y en a qui ont pas de chance et qui vont se faire rattraper avant, etc. Mais en général, c'est le moment de déclic qui fait qu'elles vont pouvoir se donner, entre guillemets, une nouvelle vie, quoi.
Complètement, complètement. Ellie, bon, vous voulez pas nous dire ce que vous allez faire dans quelques années, de toute façon dans quelques mois
Alors, ce que je peux vous dire, c'est que ça va être un court-métrage qui va être tourné dans les Vosges. Fantastique, et c'est drame fantastique. Le sujet, c'est le déni, du coup.
Le
déni.
Ah, très bien. Bon, c'est bien. Il n'y a pas beaucoup d'informations, mais on avance un petit peu. Alors, c'est vrai que bon, moi, je suis complètement étonné du talent que vous avez tous les deux, parce que c'est vrai que votre court-métrage est absolument extraordinaire. Et j'avais envie de vous dire qu'est-ce que vous avez envie de faire un jour ? Vous voulez être des réalisateurs, actrices ? Ou vous voulez produire des films ? Vous voulez... Quel est votre chemin de vie ?
Oh, moi, je prends tout. Hein.
Ouais, le problème, c'est que moi, c'est pareil. En fait, je ne sais pas choisir. Donc,
ah bon ?
Non, moi, j'ai envie de tout faire. Mais à un plus haut niveau, du coup. Voilà, j'ai envie de passer un step, quoi, on va dire.
C'est ça,
voilà,
c'est ça. Parce c'est ça, que en fait. Les courts-métrages, c'est bien. Le festival, c'est bien, mais il faut passer à autre chose, quoi, c'est ça.
Oui, puis avoir plus de moyens aussi. C'est voilà, ça. Vraiment avoir un parcours un peu plus... Bah, comme les films qu'on voit au cinéma, en fait, hein, qui sont projetés dans toutes les salles. Moi, ouais, ça me va très bien, ça. Oui, oui.
Oui, il y a tout ceci.
Partons sur ça.
Vous êtes une bonne comédienne, donc ça aussi. Alors, bon, ce petit garçon nous montre la résilience, ça aussi, c'est important... de savoir dans ce monde de violence, c'est important. Il faut quand même dire qu'en 1980, le viol est devenu un crime passible de 15 ans à 20 ans d'emprisonnement. Le viol entre conjoints reconnu depuis 1990. Et vous avez vu qu'en Espagne, ils ont rendu criminel. Enfin, aujourd'hui, c'est à perpétuité quand on agresse une femme. Donc, ce serait bien aussi qu'en France, on fasse ça. Sachant que les violences subies par les femmes constitue l'une des violations des droits humains les plus répandues dans le monde. Et ça, c'est quand même important. Il faut aussi de temps en temps, effectivement, des sujets comme ça pour révéler les problèmes que les femmes ont au sein de leur couple. Parce que, encore une fois, c'est dans l'appartement, enfermé, et souvent les femmes n'osent pas dénoncer. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont vécu ce genre de situation ? Des amis qui étaient agressés ou qui étaient...
Bah, étant donné qu'on parle, il me semblait, j'avais lu ça il n'y a pas longtemps, de quasiment 7 femmes sur 10 qui ont déjà vécu ce genre d'agression dans les... rien que dans les transports en commun. Hein, je pense que sans même le savoir, on en connaît tous.
On a tous des amis qui,
c'est ça.
Qui un jour ont subi ce genre de...
Sans le savoir même, en fait. C'est oui. Que des fois, c'est invisible. C'est pas les blessures que, qu'ont les gens, qu'ont gardé ces gens-là. Mais ce qui est sûr, c'est que bien évidemment... En fait, suffit. Enfin, on a forcément tous quelqu'un dans notre entourage à qui c'est arrivé.
Ou auquel c'est arrivé à leur mère, par exemple.
Ah, oui, c'est ça.
Ouais. Voilà, des gens qui en fait ont vu leurs parents dans cette situation.
Oui, c'est ça. Mm. Ça aussi, des enfants qui sont marqués encore par les situations dans leur enfance. Et puis, chaque jour, il y a une information de violence sur les femmes ou sur les enfants. Enfin, je veux dire, on est dans une société un peu violente. J'ai reçu il n'y a pas très longtemps une jeune femme, je vous disais Tiffany B, qui parlait aussi d'harcèlement, enfin, parce qu'elle est féministe. Le fait d'être féministe aussi, ça peut aussi poser un problème. Donc, je ne vais pas parler de ce mouvement, qui est un mouvement assez violent contre les femmes. Mais voilà, donc ça, c'est aussi important. Que dire encore alors que, Ellie va nous dire un petit peu ce qu'il a... Quels sont alors, vous m'avez dit que vous allez tourner bientôt, mais est-ce que vous croyez que toute cette violence un jour va s'arrêter, qu'un jour on aura l'occasion, les hommes et les femmes, d'être ensemble et que les hommes vont moins taper sur les femmes? Est-ce qu'il faut éduquer les garçons, leur faire comprendre que...
Je pense effectivement que l'éducation participe beaucoup à ça, clairement. Maintenant, est-ce qu'on y arrivera? Ça, je ne peux pas le dire. Je l'espère. Du moins, on espère que les choses iront toujours vers le mieux, surtout la justice ira aussi dans le bon sens.
Oui, il y a un problème de justice, bien sûr.
Parce qu'en France, on est quand même encore assez arriéré sur certains textes, sur la définition même de ce qu'est un viol ou un attouchement, ou par rapport à d'autres pays qui sont bien plus en avance, notamment. Donc, on espère que tout ça va pouvoir effectivement avancer. Maintenant, moi je suis là pour faire des films, donc mes films peuvent pas changer le monde, c'est sûr, mais au moins qu'ils pourront transmettre l'idée de le faire, quoi.
C'est ça, mais les films témoignent, c'est-à-dire que c'est ce que vous faites, vous témoignez d'une situation et vous dénoncez une situation, donc ça peut qu'aider, parce que c'est quand même un peu ça. J'imagine que derrière tout cet amusement, quelque part, il y a quelque chose de sérieux qui veut dire voilà, ça nous permet de regarder un peu ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on ne peut pas rester insensible aussi à situation aussi violente, quoi, c'est clair.
C'est un peu la mission numéro un du cinéma, de toute façon.
C'est exactement.
Trouver un sujet, de dire ce qu'on pense dessus et d'essayer, quelque part, d'améliorer le monde à partir de ça. En fait, d'en tirer les enseignements, en fait, et essayer que ça évolue grâce à ça, en interrogeant le public. Le public s'interroge en voyant le film. Et qui se rendent peut-être compte de certaines choses. Bien en tout sûr. Cas, ça ouvre le débat.
Oui, ça ouvre le débat, exactement. Voilà. C'est-à-dire que qu'on soit témoin ou qu'on soit victime, ça ouvre effectivement le débat et ça permet aux gens souvent de regarder. Parce que on n'aime pas trop regarder ce genre de situation parce que c'est honteux quelque part. Et pour le garçon, parce que le garçon qui frappe sa femme, c'est quand même pas, c'est pas le prince charmant, quoi. Et la femme qui est tapée aussi, qui est frappée ou abîmée ou. Elle est mal, quoi. Elle perd son humanité et c'est terrible. Je sais pas si on peut pas écouter un peu de musique. Est-ce que vous avez envie de nous donner quelques infos? Parce qu'il nous reste un petit peu de temps, mais je suis pas sûr qu'on puisse le faire. Donc j'ai plutôt envie de donner cette chose-là. Alors expliquez-moi ce groupe, parce que moi je le connaissais pas. Est-ce que vous connaissez, Émilie?
Alors, il me semble que c'est un choix de Diane, du coup.
C'est un choix de Diane. Bon, en fait, c'est Diane qui va nous dire.
C'est une musique qui date quand même d'un certain temps. Mais le but, c'était surtout de parler d'espoir, en fait. Parce que, justement, comme on le disait tout à l'heure, on espère que tous ces problèmes de violence conjugale s'arrêtent. En tout cas, ça menuise de plus en plus.
Ça va le faire.
Et cette musique, c'est une note d'espoir. Don't stop believing. Voilà.
Oui, don't stop believing. Oui, absolument.
Continuons ensemble d'y croire et à se battre contre les problématiques.
Absolument.
Voilà, c'est ça.
Oui, si on ne fait rien, il ne se passera rien. De toute façon, il faut se lever et se battre. Donc, on va continuer à se battre.
Exactement.
Merci infiniment d'être venu sur Aligre FM. Merci à Armand, Guri, notre technicien d'amour. Et merci aux auditeurs. Et on écoute tourner.
just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. A singer in a smoky room, a smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on and on and on. Strangers waiting up and down the boulevard. Their shadows searching in the night. Streetlights deeper.
FM 93.1.